Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Michel Leduc et Emmanuel Huysmans-Perrin. Au micro de l'Union rationaliste, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui deux femmes qui ont présidé le COMETS, le comité d'éthique du CNRS. Michèle Leduc, physicienne, membre de l'Union rationaliste et co-rédactrice en chef de Raison présente, présidente du COMETS de 2011 à 2016. Michèle Leduc, bonjour.
Bonjour.
Et Christine Noiville, juriste, l'actuelle présidente du COMETS. La pertinence de ce comité qui vient de fêter ses 30 ans d'existence est toujours très d'actualité. Il vient d'émettre deux avis importants, l'un sur la recherche scientifique face à l'urgence environnementale et l'autre sur l'engagement public des chercheuses et des chercheurs. Alors, avant de vous laisser, Michèle Leduc, interroger Christine Noiville sur ces deux avis, pourriez-vous présenter brièvement le COMETS aux auditeurs de France Culture, car je sais bien l'intérêt et le prix que vous portez à ce comité.
Oui, très volontiers. Le COMETS, c'est un comité qui comporte 12 personnes qui sont de toutes les disciplines, enfin qui représentent l'éventail des disciplines au CNRS, c'est-à-dire pratiquement tous les champs de la recherche, qui comporte aussi l'obligation d'avoir la parité homme-femme. Hein. C'est un comité qui est élu, qui n'est pas élu, mais qui est coopté pour 4 années et qui travaille de façon indépendante, c'est-à-dire pas à la demande de la direction de l'organisme. Il peut s'auto-saisir, mais il peut aussi être saisi par le président, bien entendu. Donc, que fait-il? Quelles sont ses missions? D'une part, il fait une réflexion éthique sur les conséquences morales et sociales de l'activité de la recherche. C'est quand même très important, mais il réfléchit aussi pour promouvoir la responsabilité et l'intégrité des chercheurs eux-mêmes dans leur propre milieu. Voilà.
Alors, maintenant, vous posez les questions que vous le souhaitez sur ces deux avis à Christine Noiville.
Oui, très volontiers Christine. Comment est-ce que le COMETS actuel, dès son installation avec vous comme présidente, en est-il venu à travailler sur la question de l'engagement public des chercheurs? Et pourquoi ce sujet?
Merci de l'invitation d'abord et bonjour à tous. Il nous a semblé effectivement au COMETS absolument crucial de travailler sur cette question de l'engagement des chercheurs, c'est-à-dire question de savoir si les chercheurs peuvent, voire doivent, prendre des positions publiques via de la signature de tribunes, le soutien à des actions en justice, voire des actions de désobéissance civile. Ce qui n'est pas une question nouvelle, hein. Ça fait longtemps, on sait tous que beaucoup de chercheurs se sont engagés, ont pris des positions, et particulièrement en sciences sociales, sur la lutte ouvrière, la procréation assistée, l'avortement et bien d'autres sujets. Mais en tout cas, il nous semble que c'est une question qui était fondamentalement renouvelée, et pour un certain nombre de raisons. Donc, il y a évidemment une raison qui tient au fait que la société est de plus en plus médiatisée, que les chercheurs interviennent de plus en plus de ce fait à la télévision, dans les journaux, mais aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Et puis il y a une autre raison, sans doute plus importante, qui tient à la crise écologique, à la crise environnementale, avec le sentiment d'un certain nombre de chercheurs qu'il est absolument crucial pour eux de ne pas rester dans leur labo, de ne pas... ils ne restent jamais complètement dans leur labo, mais en tout cas d'être davantage dans l'action, dès lors qu'ils mettent au jour toute une série de connaissances qui montrent et le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité et la nécessité d'agir davantage. Et donc, d'où l'intérêt, l'envie de s'engager plus publiquement, autrement que simplement en produisant de la connaissance. Et je crois que c'est particulièrement vrai des jeunes qui non seulement maîtrisent très bien les réseaux sociaux, mais aussi qui sont plus sensibles aux questions de droits humains, d'environnement, etc. Et puis aussi peut-être plus critiques à l'égard de principes qui nous ont, nous, accompagnés, vieux chercheurs, si j'ose dire, c'est-à-dire on travaille, on produit de la connaissance pour la connaissance, et puis on verra bien ce que ça donnera. Bref, ils sont plus un sentiment de responsabilité particulièrement aigu, je crois, à l'égard de leur travail. Voilà, et il nous semblait, au COMETS, et c'est même une réalité, que cette nouvelle donne-là, elle crée toute une série d'interrogations, voire de tensions, Donc, les interrogations, c'est est-ce que je peux m'engager? Est-ce que ça va pas porter atteinte à ma crédibilité? Est-ce que je remets pas en cause l'image de la recherche? Et puis, au plan plus collectif, c'est est-ce que je dois m'engager? Est-ce qu'on doit s'engager? Il y a une espèce de mot d'ordre maintenant de la part d'un certain nombre de scientifiques de le faire. Donc, est-ce que c'est une obligation ou pas? Sans compter que les institutions elles-mêmes, et au CNRS par exemple, on s'interroge beaucoup sur la manière de soutenir les chercheurs qui s'engagent et qui sont très critiqués, dont le travail est discrédité parce que leurs propos ne plaisent pas à un certain nombre de gens, comment ils doivent faire face à la désobéissance civile, enfin bref, toute une série de questions qui nous paraissent absolument déterminantes de l'avenir de la recherche scientifique et sur lesquelles le COMETS a voulu donner des clés de réflexion.
Oui, d'ailleurs, quelle est, pourriez-vous résumer la substance de cet avis sur ce sujet? Parce que vous brisez quand même le tabou de la neutralité de la science. Pour le public, en général, un expert scientifique, quand il est consulté, pour être crédible, il ne doit pas donner ses opinions, mais il doit simplement se limiter aux faits. Hein. Donc, le fait qu'il soit engagé dans une cause sociétale et qu'il le reflète dans son expertise, ça peut sembler douteux pour le public.
Alors, l'idée générale de cet avis, c'est vraiment deux notions, la liberté d'une part, la responsabilité d'autre part. Tout chercheur est libre de prendre des positions publiques. Et je crois qu'il est important de le rappeler à un moment où la liberté académique, la liberté d'expression des chercheurs tend parfois à être foulé aux pieds. Il est libre de le faire et il y a même un vrai intérêt à ce que les chercheurs prennent des positions publiques quand il s'agit d'enrichir le débat. Qu'on parle de relance du nucléaire, d'autoroute à 69, d'OGM et que sais-je, il est intéressant que le débat public soit enrichi du savoir des scientifiques. Et donc c'est vrai que de ce point de vue-là, le COMETS prend un petit peu de distance par rapport à cette idée assez classique selon laquelle il faudrait que le chercheur soit neutre, absolument neutre, au prétexte que voilà, il n'y aurait pas de science qui tienne la route à partir du moment où elle n'est pas objective. Il faudrait que le chercheur laisse soit arrive dans son labo vierge de toute valeur, mais c'est un mythe. Alors si on veut dire qu'il faut que le chercheur produise de la science fiable, qu'il suive la méthode scientifique, une méthode rigoureuse, c'est une évidence, on sera tous d'accord là-dessus. Mais encore une fois, qu'il laisse au placard ses valeurs et quelque chose un idéal qui, je crois, n'est pas atteignable. Donc une liberté, en revanche des devoirs. Et ça, le COMETS insiste beaucoup là-dessus. Pourquoi ? Parce que les chercheurs sont crédités d'une confiance particulière de la part du public. Oui, alors on dit souvent effectivement qu'il y a une perte de confiance, etc. Mais en réalité, tout montre qu'ils sont beaucoup, beaucoup plus crédités de confiance que le sont les journalistes, a fortiori les politiques et que sais-je encore. Et il faut qu'ils soient à la hauteur de cette confiance. Pourquoi ? Parce que la parole des scientifiques dans l'arène publique a un poids particulier. Parce que en tant que chercheur, on leur fait une confiance particulière. Donc, il est extrêmement important, ce faisant, que le chercheur soit à la hauteur de tout cela, en respectant toute une série de devoirs. Et le COMETS rappelle ces devoirs. Le premier, c'est effectivement de se prononcer clairement, de dire si on parle en chercheur ou en citoyen, si on parle en son nom ou au nom de son institution, sur quelles données on s'appuie, si ces données sont fiables, partagées par toute la communauté scientifique, ou au contraire incertaines, à quel type de controverse donne-t-elle lieu, etc. Bref, il ne doit pas induire son public en erreur. Et ça, c'est absolument crucial. Donc, parler, oui. Prendre position, oui. À partir du moment où on suit une démarche scientifique rigoureuse, c'est vraiment la condition d'abord de la richesse du débat et de la confiance qui est témoignée aux scientifiques.
Alors, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que les avis du COMETS sont en général suivis de recommandations. Alors, à qui s'adressent les recommandations de cet avis? Aux chercheurs, on l'a bien compris. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une recommandation pour l'institution CNRS?
Oui, tout à fait.
Elle a aussi une responsabilité.
Absolument. Oui. Vous êtes très bien placés pour savoir que les recommandations du COMETS, effectivement, valent pour les chercheurs, mais aussi pour ceux qui les pilotent. Et puis, au-delà du CNRS, pour l'ensemble des chercheurs, je pense qu'il y a de la matière à penser, de la matière à réflexion qui est utile pour tous. Alors, en l'occurrence, s'agissant de l'engagement public des chercheurs, effectivement, Nous formulons plusieurs recommandations, celles que j'ai déjà citées, mais aussi une autre qui s'adresse plutôt à la direction du CNRS et qui consiste à inviter cette direction à mettre en place les outils pour construire collectivement au sein du CNRS un guide de l'engagement. Pourquoi ? Parce que notre avis, il est une première étape de réflexion. Il donne un cadre de référence en quelque sorte, mais il donne pas des éléments clés en main qui permet de dire aux chercheurs, alors comment est-ce que je m'y prends quand je suis interrogé par un journaliste, la désobéissance civile, jusqu'où est-ce que c'est possible, à partir de quand c'est totalement irréalisable ou il est impossible, etc. etc. Mais aussi des questions qui intéressent le CNRS lui-même. Par exemple, à partir de quel moment, lorsqu'un chercheur est attaqué sur les réseaux sociaux, ce qui arrive souvent et même de plus en plus souvent, à partir de quel moment doit-on lui donner la protection fonctionnelle et comment ? Donc toute une série de questions qui méritent vraiment que, c'est une image, hein, tous les chercheurs du CNRS se mettent autour d'une même table avec la direction et qui est vraiment une discussion très franche sur les points durs, je dirais, de cette thématique. Et dans cette perspective-là, je crois qu'il faut vraiment saluer ce qui a été fait par la direction du CNRS, hein, qui a consisté à faire une grande consultation le mois dernier de très très nombreux chercheurs du CNRS, tous les personnels de recherche en réalité, pour faire remonter le sentiment général, l'importance du sujet, les questions cruciales, voilà. Et tout cela sera suivi de la co-construction d'un guide.
Je voudrais poursuivre par une question qui concerne l'avis que vous avez fait juste avant. Si les chercheurs s'engagent, particulièrement aujourd'hui, c'est pour pousser à l'action, mais l'action essentiellement pour beaucoup contre le changement climatique et la perte de la biodiversité. Donc, ils appellent notamment à une responsabilité particulière du secteur de la recherche, c'est ce qu'on appelle l'éthique environnementale. Alors, vous avez rendu un avis sur cette question. Quelles sont les idées nouvelles de cet avis. D'une part, je pense que vous questionnez les pratiques environnementales de la recherche elle-même, et la réduction du coût carbone de toutes ces pratiques, mais il y a aussi d'autres aspects dont vous pourriez nous parler, c'est le choix des sujets de recherche par les chercheurs eux-mêmes.
Oui, absolument, c'est probablement effectivement l'élément le plus novateur de cet avis qui a donc été rendu cette fois-ci à la demande de la direction du CNRS qui s'interrogeait comme énormément de chercheurs évidemment sur la manière dont on peut articuler deux injonctions qui peuvent sembler contradictoires, c'est-à-dire d'un côté que la recherche, comme toute activité, fasse attention à son impact environnemental, limite au maximum son impact, et de l'autre côté, le fait que la recherche, elle nécessite parfois aussi des méthodes énergivores, le fait de prendre l'avion, et beaucoup de gens vous disent, mais alors si vraiment on fait trop attention, à ce moment-là, on se prive de la possibilité de produire des connaissances qui pourraient être utiles précisément comme réponse à la crise environnementale que l'on connaît. Donc dans cette difficulté-là, effectivement, on a réfléchi à la manière d'articuler au mieux. Et je crois qu'il y a deux apports de notre avis. Le premier consiste à dire que si l'éthique de la recherche, c'est vraiment prêter attention, comme vous l'avez dit Michel Leduc tout à l'heure, aux impacts de la recherche scientifique, aux impacts sociétaux et sociaux de la recherche scientifique, alors les chercheurs ont la responsabilité de prêter attention, de penser plus finement les liens qu'ils ont, que leur activité a avec l'environnement, exactement comme ils l'ont fait il y a 30 ans avec les questions d'animaux. Il y a 30 ans, le rapport aux animaux a changé et ce faisant, eh bien, il y a une éthique animale qui est venue compléter l'éthique de la recherche. Et la deuxième idée, c'est qu'effectivement, vous l'avez dit, les pratiques, c'est important, les pratiques de la recherche au quotidien. Est-ce que j'achète pas mieux? Est-ce que je prends pas moins l'avion? Est-ce que, etc., etc. C'est une question très importante. Il faut rendre hommage au CNRS de faire beaucoup de travaux dans ce champ. Mais il faut aussi penser les sujets de recherche et les voies pour les mener. Il faut se demander si, quand on choisit de s'orienter pour faire des nanotechnologies, des biotechnologies et que sais-je encore, eh bien, c'est plutôt bénéfique à la société, plutôt bénéfique à l'environnement, ou si au contraire, ça va conforter des méthodes de production ou des modes de consommation qui vont être non durables. Et ça, je crois que, alors c'est très difficile, effectivement, nous ne donnons pas de méthode clé en main quant à la manière de faire, mais il y a une nécessité d'avancer sur ce terrain-là et de réfléchir tous ensemble. Et je crois qu'on a lancé effectivement un premier ballon d'essai à cet égard. Il y a beaucoup de gens qui se sont emparés de la question et qui, je n'en doute pas, feront avancer la chose.
Et vous nous intéressez beaucoup au comité, à l'Union Rationaliste qui a justement tout récemment publié dans sa revue Raison Présente un numéro entier dont le dossier s'intitulait,
Tout est-il
souhaitable en recherche. Il y avait en particulier le sujet de la physique spatiale ou de la géo-ingénierie.
Alors, tout est-il souhaitable en recherche? La réponse est évidente, c'est non. On sait bien qu'il y a des choses qui ne sont pas souhaitables. Et notre société tout entière a admis le fait que faire du clonage reproductif, par exemple, ça n'était pas souhaitable. En revanche, dans bien des cas de figure, la question n'est pas noire ou blanche, hein, souhaitable, pas souhaitable. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je crois qu'effectivement, il est important de réfléchir à ce que pourraient être des critères du raisonnable ou du déraisonnable en science. C'est ce qu'on est en train de commencer à faire.
C'est sur ces mots que nous allons clore cette émission. Christine Noiville, Michel Leduc, je vous remercie.
Merci à vous.
Michel Leduc a rappelé l'avant-dernier numéro de Raison Présente « Tout est-il souhaitable en recherche ?» que vous pouvez commander sur le site de l'Union Rationaliste. J'annonce le prochain colloque de l'Union Rationaliste qui aura lieu le samedi 22 juin prochain entre 11h et 18h à la salle Dussan de l'ENS de la rue d'Ulm. Il portera sur une question qui rejoint l'émission de ce matin, les engagements des scientifiques face à la crise environnementale. Y participeront notamment François Héran, Mathias Girel, Ami Dahan, Valérie Masson-Delmotte, Michel Badré. Vous pouvez retrouver tout le programme de ce colloque sur le site de l'Union Rationaliste. Je remercie Luc Jean Reynaud et Noé Chabanne qui ont rendu possible cette émission. Je remercie Claire Poinsignon pour le site de France Culture et Roland Lemoine pour le site de l'Union Rationaliste. Je vous dis au mois prochain.